Comment ?
Faire attention au texte qu'on étudie, parce que...
Oui. Et oui, parce que si jamais on comprend... vous avez par exemple cette citation dans la Gada de Pessah. Bechirim nefesh yardou avotenu be Mitzrayim. Au nombre de 70 personnes, la famille de Jacob est descendue en Égypte.
Mais on dit qu'il y a 70 faces pour comprendre la Torah.
Justement. La racine de ce problème, c'est ça. C'est que l'humanité s'est dispersée en 70 manières d'être, en 70 nations. Shirim Goyim. Okay? Et par conséquent, Israël est suscité comme cœur de cette humanité, doit avoir une relation possible avec chacune des 70 manières d'être hommes. Je pense que c'est clair. Donc Israël ne commence à exister comme société qu'à partir de 70 personnes de la famille de Jacob. Oui, et vous voyez que c'est relié au problème de la galoute. Qui, comme vous savez, est un stade nécessaire mais provisoire, et effectivement, le commencement de cette histoire, c'est Joseph partant à Shrem et descendu en Égypte. La fin de cette histoire, c'est Moïse faisant sortir les 70 dimensions d'Israël de cette galoute pour revenir en Eretz Canaan. Or, dans ce parcours, qui est le parcours du désert, entre le Yesh de Mitzrayim et le Yesh de Eretz Israël, c'est-à-dire entre le monde de l'Égypte, de la civilisation extérieure, et le monde d'Israël, et tant dans le temps que dans l'espace, il y a un Aïn. Et ce Aïn, c'est le Midbar. La traversée de ce Aïn, pour passer du Yesh ancien au Yesh nouveau, il y a des périls. Il y a 49 étapes, etc. Il y a des périls. Et à chacune de ces étapes que la Torah compte et énumère, et nous raconte là où il y a eu takala, là où il y a eu épreuve. Épreuve dans le sens test à passer. Et chaque fois qu'il y a des catastrophes, il y a dénombrement. Est-ce qu'il reste suffisamment de... C'est clair jusque-là ? Stop. Or, dans la parasha de Pinchas, et là de nouveau je cite le Shlach qui s'appuie sur le Zohar, et nous-mêmes le dénombrement est repris, mais avec une modalité, entre autres, très particulière. C'est que la Torah prend le temps de nous expliquer ce qui est arrivé à un certain nombre de noms des familles d'Israël qui ont disparu à cause de leurs fautes, à cause des fautes qui ont été faites. Et en récapitulant tout cela, nous voyons que six noms ont disparu, que je vais vous énumérer dans l'ordre. C'est Datan et Abiram. Qui étaient Datan et Abiram, les chefs de la tribu de Réhouben qui sont révoltés contre Moïse. Et la Torah raconte Datan et Abiram, voilà ce qui leur est arrivé, disparus. Les deux fils de Aaron, Nadav et Abihu, ça fait 4, Tselophrad, ça fait 5, et Korach, ça fait 6. Ça va jusque-là ? Bon. Alors, ces 6 noms ont disparu. Et la Torah le dit de façon circonstanciée, dans le dénombrement de la parasha de Pinchas. C'est-à-dire, si ces 6 noms n'avaient pas disparu, eh bien, le mot de Adon aurait pu être écrit avec le vav. C'est ce vav-là qui disparaît. Et alors, Jacob et sa famille descendant en Égypte sont 70 plus 1, 71. Il y a d'ailleurs deux niveaux de ce problème, suivant les Midrashim, vous verrez. C'est ou bien les 70 avec Jacob, ou bien les 70 avec Joseph. Et il y a toute une discussion entre ces deux plans du Midrash. Mais quoi qu'il en soit, c'est le même thème. Donc, cette famille de Jacob avec Jacob, ça fait 71. Et donc, il y aurait l'invocation du mot Adonai avec Vav. Mais voilà qu'entre-temps, il y a eu défaut de la cuirasse, comment dire, une atteinte. On disparaît. Plus tard, nous voyons que juste après ce dénombrement, et ça prend des chapitres et des chapitres, la Torah parle de tout un problème qui vient là, mais très circonstancié. C'est le fait que Tselophrad est mort sans garçon, a laissé des filles, et que les filles réclament que le nom ne disparaisse pas de la tribu. Il s'avère que finalement, il avait 5 filles qui sont des Nashim Tzadkaniyot, des grandes Tzadikim, et qu'elles vont avoir héritage en Israël, bien qu'étant des filles, et je relis les deux problèmes, elles ramènent 5 noms. C'est clair ? Donc, ça fait donc 70, au moins. Mais il manque toujours ce 1. Elles ont pu ramener 5 noms, mais pas le 6e qui est encore en question et qui est celui de Korach. Or, Korach, comme vous savez, c'est la Mahloket. Et vous voyez le lien. Et puisqu'elles le disent elles-mêmes, vous verrez le verset, Avinu met, je ne me rappelle plus du Veloraya Be'adat Korach, qui Bechetu met Veloraya Be'adat Korach. Notre père est mort pour sa propre faute, il n'était pas dans l'assemblée de Korach. Ça veut dire qu'on voit que ces cinq filles de Sélophrade ont la force de réintégrer cinq dimensions, mais il manque encore la 71e qui, si elle n'est pas là, empêche la 72e de venir. Donc nous sommes dans une situation de chasser. Il y a au moins 70, alors tout peut continuer. Mais il manque le 71 qui ne sera là que lorsque la Mahloket sera achevée. Alors s'il y a 71, il y aura 72, c'est la Yashrina. Vous voyez à quel niveau est la Kavana ici? C'est clair? C'est-à-dire que la prononciation du mot Adonai, vue dans les... dans la Tnuniut, quatre lettres, mais en percevant qu'il manque le Vav. Ça c'est... Vous voyez comment ça se relie avec la question de la Mahloket. Et juste une minute avant que j'oublie, il y a un verset dans Devarim, où Dieu dit à Israël, ne croyez pas que c'est par votre mérite que vous êtes ce que vous êtes. Qui atem ham'at mikol ha'amim. Le pshat c'est qui atem ham'at mikol ha'amim, car vous êtes le plus petit des peuples. N'allez pas raconter que vous êtes un grand peuple, vous êtes le plus petit des peuples, le plus microscopique. Alors Rashi, se basant sur Rabbi Moshe Darshan, nous fait lire qui atem hemeat mikol ha'amim, parce que vous êtes 5 de moins que de tous les peuples qui sont 70. Je vous dis, Kiatem Hemeha, vous êtes 5 de moins que tous les peuples. Il faudrait que vous soyez 70, mais en réalité, vous n'êtes que 65. Et que c'est grâce à vos femmes que vous êtes 70. C'est les filles de Sélophrade. Vous voyez l'importance des filles de Sélophrade. Alors, c'est cette Kavana. C'est-à-dire qu'à tout le moins, il y a unité de la communauté d'Israël sous l'aspect 65. La Kavana qui apparaît corollairement à la Braïta que nous avons vue sur la Mahloket. Vous voyez comment le lien est très directement avec le problème de Korach. La Torah, lorsqu'elle donne la généalogie de Korach, dit Korach ben Kehab ben Yitzhar ben Levi. Et on attend ben Yaakov. Le Midrash intermédiaire dit Yaakov a dit non, mettez pas mon nom avec lui. Parce que la Mahloket. C'est-à-dire lorsque finalement la Mahloket sera évacuée, alors le 71e reviendra et le 72e aussi. Vous voyez à peu près comment est la Kavanot. Donc vous voyez qu'il ne faut pas jouer avec le Kavanot, on ne sait pas de quoi on parle.
Et quelle relation avec, oui, avec Nekorach Lometu?
Ou Nekorach Lometu, alors là il y a deux pshat. C'est ça que je dis. Là il y a deux pshat. Le premier pshat, ou Nekorach Lometu, Korach lui est mort, mais regardez, ça, mais pas ses enfants. Et ses enfants vont être une grande lignée de Levim qui vont être des grands psalmistes. Je vous citerai tout à l'heure. Et ça, c'est le pshat. Et c'est très important, il n'y a pas d'hérédité morale. Korach, c'est terrible. Mais Bnei Korach l'omet tout. Anefesh ha-chotet yitamut. Celui qui a fauté meurt, pas ses enfants. Vous voyez à peu près Bon, c'est pas non plus si simple que ça, mais c'est important de le citer. Il y a un deuxième pshat qui est juste le contraire. Bnei Korach l'omet tout. Et il y a toujours la Mahloket en Israël. Juste le contraire. Bnei Korach l'omet tout. C'est comme ça qu'on dit en juif, et j'allais dire en hébreu, mais je veux dire en lashon hakodesh, et qu'on dit, il y a encore une marche, ou bnei korach lomet tout. Ça va bien. Mais une fois, je vous ai cité peut-être cela, vous savez que chaque jour de la semaine, nous lisons un psaume particulier. Le deuxième jour de la semaine, nous lisons précisément un psaume de bnei korach. C'est lequel? Les mots. Or, le deuxième jour, c'est le jour où la Mahloket a été créée. Et c'est pourquoi il n'y a pas Kito dans le deuxième jour, dans le récit du deuxième jour. Et donc, vous voyez que les Bnei Korach sont chargés de faire le tikkun de la Mahloket du deuxième jour. Non? Non, mais c'était Mahloket Leshem Shamaim. Tandis que la Mahloket de Korach, comme dit la Mishnah, c'est Mahloket Shelo Leshem Shamaim. Et c'était Mamash, il m'a choqué avec les Shem Shamaim, Mamash. Parce que quelle est la séparation du deuxième jour? Les hauts d'en haut et les hauts d'en bas, et les hauts d'en bas pour que le Shamaim apparaisse. Et là, c'est les Shem Shamaïm, maman. Pshat, hein? Ça, c'est la marloquette des Shem Shamaïm. Oui, le nom de Shamaïm, c'est le duel de Shem. Et alors, le duel fait apparaître la marloquette. Mais les Shem Shamaïm, c'est la solution de cette marloquette. Le Shem unique qu'il y a dans Shamaïm au duel, les Shem Shamaïm. Et Shem Shamaïm, c'est finalement Rachamim. Rachamim. Et simplement, je complète cela, parce que, tout simplement, quand nous disons, par exemple, dans le verset, « Ose shalom bimroma, vous yasse shalom alenu », dans le Shamaïm, il y a shalom. Entre Esh ou Maïm. Sur terre, il n'y a pas shalom. Esh, c'est Esh, Maïm, c'est Maïm. Donc, « Ose shalom bimroma », celui qui fait la paix dans ses hauteurs, dans le Shamaïm, Shamaïm, c'est l'endroit du shalom. Parce que, bien que le Esh et le Maïm, l'eau et le feu, soient des contraires, voilà qu'il existe l'unité des contraires, Shem Shamaïm. Alors, l'eau, c'est Midat HaChesed, et le feu, c'est Midat HaDin, donc Shem Shamaïm, c'est Midat HaRachamim. Le, ou les filles à Emet, Midat HaEmet. Rashi cite cette étymologie de Shamaïm, Eshumaïm. Il y a un passage dans la Gemara qui est extrêmement suggestif, c'est que la Gemara dit ceci, quand quelqu'un rêve d'une casserole sur le feu, alors c'est qu'il est un homme de paix. Parce qu'il y a une seule réalité sur terre qui peut faire la paix entre l'eau et le feu, la casserole. Et parce que si... Vous voyez que le judaïsme, c'est une affaire de marmite. Parce que l'eau à côté du feu, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de feu. Si vous mettez une casserole, il y a de la nourriture. C'est joli ça. Alors c'est ça la paix. Donc, eh bien oui, mais justement, mais comprenez bien une chose. Si vous mettez l'eau au contact du feu, le feu s'éteint et l'eau s'évapore. Il n'y a plus ni eau ni feu. C'est-à-dire sur terre, Rachamim est très difficile. Sur terre, l'unité des, je ne veux pas dire des contraires, mais enfin, l'unité est très difficile. Le ciel, c'est son domaine. Hein? Et c'est ça, au fond, le Shem Shamaïm. Alors, une minute, c'était seulement pour préciser cela. Bien sûr qu'il y a l'occasion de la marloquette, parce qu'il y a le problème de la séparation d'en haut et d'en bas pour qu'il y ait en bas. Et alors, il y a en haut. Et donc, c'est une. Comment dire, ça s'attache à la nécessité du monde, la marloquette, c'est sûr. Mais profiter de cela pour une marloquette chez Enal et Shem Shamaïm, c'est ça la méchanceté. Il y a une porte ouverte, alors je rentre. D'accord, t'as mis défense d'entrée. Mais oui, mais elle est ouverte. Mais oui, mais il y a des fonds d'entrée. Oui, à peu près. Quel est-ce que vous voulez
dans la première lecture, le décor a changé tout, justement. En quelque sorte, il n'y a pas là une déchouva qui a été faite et qui est acceptée.
Je crois que...
Sur le plan de la marloquette.
Je crois que ce qu'on veut nous indiquer par là, déjà dans le verset, c'est que les Bnei Korach n'ont pas participé à cette marloquette. Bon, c'est pourquoi que l'on met tout.
Bon, alors il est seul à avoir participé.
Oui.
Il est maître. Donc il n'a pas laissé en héritage, si je peux dire, cette marloquette.
Voilà. Alors le Midrash dit. Attends. Alors le Midrash dit que, en réalité, il est rentré vivant dans le Sheol. Et qu'il est toujours vivant, mais dans le Sheol. Et que le Shabbat, la Midat al Hamim joue, et le Esh s'atténue. Et il a le temps de dire, et il dit ça toute la journée, c'est ça celui là, Moshe Emet Torah Toev. Mais le Shabbat dans le Sheol, jusqu'à ce que, sauf, le tikkun de la marloquette, cette karachat, se fasse, et à ce moment-là, Yaakov acceptera de donner son nom. Il y a un verset dans le Tanakh où Yaakov donne son nom à la généalogie va jusqu'au bout, Ben Yaakov.
Il n'y a pas de trace dans la liturgie, enfin dans cette explication du mot Adonai, de ce revirement de Korach, si je peux dire.
Non, c'est-à-dire que bien sûr, c'est, si j'ai bien compris la question, c'est le tikkun que nous attendons. Dès que ce tikkun sera fait, le Vav revient.
Oui, mais il y a tentative de la part de Korach. Là, c'est tout.
C'est-à-dire que tu l'imputes au Bnei Korach.
Même à Korach, puisque d'après le Midrash, qui dit moi j'ai aimé, je ne t'en ai pas aimé.
Ah non, ça il est contraint, ça il est obligé. C'est un peu ce qui s'est passé entre Acher et Rabbi Meir. Et C'est-à-dire que, voilà, il y a dans un moraliste français une phrase qui me revient, c'est La Rochefoucauld, je pense d'ailleurs, le vice est l'hommage rendu à la vertu. C'est ça, Corard. Le vice est l'hommage rendu à la vertu. C'est-à-dire, lorsque le vice est authentiquement lui-même, alors il est tellement clair que sa propre existence est l'hommage rendu à la vertu. C'est-à-dire, le problème qui est touché ici est très important. C'est que la marloquette comme telle est une nécessité du monde. Mais c'est la marloquette dans les Shem Shamaï. Et c'est pourquoi, je voudrais encore le redire aujourd'hui, chaque fois que nous approchons de ces études de Kohar, on prend toujours la précaution de dire il ne faut pas regarder Kohar de haut, il faut regarder Kohar très grand. Il est juste un peu plus bas que Moshe. C'est une querelle entre les grands. Mais, lorsque cette querelle finalement est à notre portée, alors elle est très grave. Donc, je veux dire, Kohar est un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. C'est Acher, hein? c'est l'autre. La définition, je veux dire, c'est ceci. Bon, nous sommes contre les hérétiques. Mais qu'est-ce que c'est l'hérétique? C'est l'autre croyant.
Mais alors, comment a-t-il pu être une personne croyante?
Vous savez, la Midrash explique, et le Midrash explique... Mais non, le Midrash donne une raison. C'est pas tellement lui le pauvre, c'est sa femme. Elle était trop ambitieuse pour lui. Justement, c'est enseigné à propos de On Ben Pelet, qui a été sauvé grâce à sa femme. Et sa femme lui a dit, qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans? C'est parce que la femme de Korach est jalouse de la femme de Moïse. Et non, mais c'est pas anecdotique, c'est très important comme thème. Je vous citerai une Gemara qui est d'ailleurs dans ce chapitre. Puisqu'en fin de compte, il y avait de quoi pour Korach de porter cette querelle contre Moïse. Quel était le fond de la querelle? Et vous avez dans Beravola du Maharal l'explication de la Haggadah que je vais citer. Le fond de cette querelle était que Moïse enseigne les lois qu'il a à transmettre, et puis voilà que Korach s'oppose, est en marloquette, discute. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as entendu? Moi j'aurais entendu comme ça. C'est moi qui mets au conditionnel. Un Korach grossier dit, moi j'ai entendu, alors qu'il n'a rien entendu. Mais il dit, moi j'aurais entendu comme ça. Et par exemple, la halakha est que... on met une mezouza à la porte de la maison. Et effectivement, c'est juste le texte qui précède la querelle de Korach dans le récit. Alors Korach dit quoi? Une mezouza à la porte de la maison? Bon, c'est ça que tu as entendu. Mais alors, question, et si la maison est pleine de sifrei Torah, on met aussi une mezouza? Et Moshe qui répond, oui. Et Korach qui dénonce démagogie. Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? De la même manière, Moshe vient de dire, dans le talet, il faut mettre un fil bleu. Le petit Techelet. Et alors Korach pose la question, et si le talet entier est bleu, est-ce qu'on met aussi un fil bleu? Et Moshe dit oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il dit ceci. Qui kola aida kulam kedoshim uptocham Hashem velama titnasehu al keal Hashem. Ça veut dire, Moïse vient enseigner une Torah dont le principe et le fondement, c'est que toute l'assemblée d'Israël est sainte et que par conséquent, il n'y a pas de hiérarchie. C'est clair. Et Moïse vient de dire à Israël, il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes Mamlechet Kohanim, le goy kadosh de toute l'humanité. Vous êtes la nation sainte de toute l'humanité. Et voilà que Moïse institue des prêtres pour cette nation et des chefs pour cette nation, une hiérarchie, et se met au sommet avec Aaron. Et alors, la querelle de Korach, tu contredis ta propre Torah. Tu nous dis qu'il faut mettre une mezouza sur la maison. Mais si toute la maison c'est un Sefer Torah, Israël, il faut aussi une mezouza, Moshe. Et Moshe qui répond oui. Et Korach qui veut dénoncer la démagogie. Voilà, c'est le problème. Je vous donnerai la réponse. Mais vous avez compris que c'est pas n'importe quelle querelle. De la même manière, et si tout le talent est très laid, tu veux aussi un petit ou très laid. Et j'arrive à la réponse. Mais je voulais d'abord citer cette Gemara. Dit à quel niveau se tient Korach. Or, précisément, l'enfant que Hana va demander, et qui sera Shmuel, est l'ancêtre de Korach. Et la Gemara raconte que Korach a eu un rêve, et qu'il a vu son arbre généalogique qui mène juste à c'est l'inverse. Hein. C'est Korar qui a lancé le Shmuel. Si Korar peut sortir de Shmuel, c'est que Shmuel sort de Korar.
Vous voyez que...
Attends, je n'ai pas fini. Et il a vu dans un rêve son arbre généalogique qui mène à Shmuel. Or, il y a un verset qui compare Shmuel comme étant aussi grand que Moïse et Aaron à la fois. C'est un verset des psaumes. Moshe ve Aaron ve Kohanav ou Shmuel ve Koreshemo. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté Moïse et Aaron et de l'autre côté Shmuel tout seul. C'est-à-dire que Shmuel est aussi important en son temps que Moïse et Aaron ensemble au sien. Alors Korah fait le raisonnement suivant avec le commentaire de sa femme. C'est si déjà Shmuel qui va descendre de moi est comparé par David à Moïse et Aaron ensemble, alors c'est que moi déjà j'équivois à Moïse et Aaron ensemble, puisque je suis chez eux. Oui. Est-ce que c'est bien clair? Alors dit voilà le vertige qu'il a pris. Et j'avance encore un peu dans cette citation. C'est que ce que nous voyons d'ailleurs dans la Gemara suivante, c'est que qu'est-ce qu'a fait Shmuel? Précisément, Shmuel a fait en son temps ce que Korach avait fait dans le sien contre Moïse et Aaron. Seulement, en son temps, Shmuel avait raison, alors qu'en son temps, Korach n'avait pas raison. Puisque, qu'est-ce qu'a fait Shmuel? Il s'est révolté contre son maître, qui était Eli, le prêtre Eli. Et sur quel halakha, sur quel principe, la dynastie des Kohanim, en ce temps-là, dirigée par Eli, avec Aïn, avait institué le principe que seuls les Kohanim avaient le droit de faire le sacrifice. Shrita Bezar Psula, c'était la halakha de Eli. Et Shmuel institue, se révolte contre cela et dit Shrita Bezar Kshera. Et Shmuel a raison d'après la Torah. C'est-à-dire que, en réalité, nous donnons une délégation au Kohen, mais que normalement, chacun pourrait faire la Shrita. A Kol Shochatim. Tu vas vous dire ça au Beddin, à Kol Shochatim. Et alors, le problème est le suivant. Il voit que Shmuel se révolte contre Eli qui avait institué une hiérarchie et il voit que Shmuel a raison en son temps. Alors, il dit donc, à la fin comme ça, je vais le faire moi aussi. Alors, voilà donc la réponse. Et c'est là qu'il s'est trompé. Voilà donc la réponse. L'idéal, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, j'emploie l'objectif de la Torah, c'est bien évidemment une société d'Israël sans hiérarchie, puisque c'est elle qui a la hiérarchie de l'humanité. Je pense que c'est clair. Et dans le fond des choses, ça vous explique pourquoi il y a une espèce de tendance profonde dans l'identité juive à la conscience anarchique. Mais anarchique dans le sens étymologique du terme. Anarchie, sans hiérarchie. Okay. Et en fin de compte, un juif profondément, s'il devait vraiment choisir son véritable parti dans l'échiquier politique, il serait nihiliste. C'est pas notre travail de faire cela. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, pendant tout le temps où nous ne sommes pas encore à ce niveau, qui kola eda kulam kedoshim, alors il faut une hiérarchie transitoire. Est-ce que c'est clair? Voilà le problème. Et il y a des temps où la cristallisation de la hiérarchie doit être éclatée au nom de la Torah, il y a des temps où au contraire, elle doit être installée au nom de la Torah. Donc finalement, le démagogue, c'était Korach, c'était pas Moshe. Mais Moshe était impuissant. C'est pourquoi il a fallu que Dieu lui-même punisse Korach et l'enterre vivant. Je pense que c'est clair. Pour une minute, vous comprenez pourquoi Moshe était impuissant? Parce que l'argumentation de Korach est sans faille. Il dit, au nom de ta Torah, je te condamne. Et vous avez bien compris cela. Alors je voulais simplement dire une blague. En réalité, nous avons trois ennemis. C'est Gog, Magog et Démagog. Pédagogue, c'est autre chose. Oui, vous voulez poser une question. Bien sûr. Seulement, voilà, à partir d'un certain seuil, il y a hiérarchie sans qu'il y ait hiérarchie. Il y a des madrigotes. Tout le monde est kadosh, mais il y a des madrigotes. Et lorsqu'on est au-delà du seuil du haolam, de la kdusha, il n'y a plus de korach. Parce que là, le fait que tout le monde soit kdoshim, alors ça va de soi, mistama. C'est-à-dire, c'est un grand principe de la Torah du Rav Kook. On ne peut pas comprendre l'identité même du monde si on ne comprend pas que tout est égal, mais qu'il y a une hiérarchie pour tout. Qu'il y a des madrigotes. Tout est égal. Comment dit la Gemara et le Zohar? Mi karner et emim ad betsekinim. Les cornes du cerf et les os des poux, les œufs des poux, c'est la même existence. Le fait d'être, le fait d'exister, c'est la même chose pour. Et cependant, entre cela et cela, il y a Yesh Madrevo. Il y a mi karner et emim ad kenemim. Le fait pour, je sais pas, une araignée d'exister et le fait pour une étoile d'exister, d'ailleurs c'est un peu la même chose dans un poème de Victor Hugo, je ne sais pas si vous vous rappelez lequel. L'araignée c'est une étoile que le diable a regardée, je cite Victor Hugo. Et l'étoile c'est une araignée que le bon Dieu a regardée. C'est joli d'ailleurs. Mais le fait d'exister, c'est le même fait d'exister, mais il y a des hiérarchies. C'est ça qu'avance Korach et Moshe. C'est le Rav nous appelle souvent cela. Yesh madrego, bakol yesh madrego, afilu bakdusha yesh madrego, afilu batuma yesh madrego.
Quelle est l'identité de Zohar
et de Zohar? Ah non, ne me posez pas des questions comme ça. Je vais rater mon avion, si vous voulez. Il faudrait bien un séminaire là-dessus, non?
Comment?
Il faudrait faire un séminaire sur Zohar et de Zohar, non?
Je ne sais pas.
Oui, pardon. Oui, je vous
écoute.
Non, non, vous pouvez.
À propos de la prière.
Oui.
Nous savons que presque la totalité de la communauté juive dans le monde, je parle de celle qui s'empire la prière, on a vrai prié sans comprendre.
Oui.
Qui vaut cette prière?
Eh bien, nous avons un peu parlé de cela, merci. Et voilà, d'une autre manière, je vais vous dire, si nous étions au niveau où il faut être, il est bien évident que l'exigence du rituel serait totale. Premièrement, il faut comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Est-ce que ça veut dire comprendre le sens des mots dans le dictionnaire? Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de ça. Et même celui qui comprend le sens des mots dans le dictionnaire, il ne comprend pas ce qu'il y a décrit dans ce texte. Je vous ai donné un petit échantillon sur le mot de Adonai, mais le premier mot, okay? Mais si vous saviez ce qu'il y a derrière, vous seriez affolé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Vous comprenez? Et comme on est descendu de Madriga, finalement on nous demande l'exigence minimum, hors de quoi c'est même plus un acte humain, c'est-à-dire de prononcer comme il faut. Et parce que, encore une fois, ouvrez, si vous voulez, un livre de prières traduit, de relâcher, les prières d'un cœur israélite. Okay? Et comment il s'appelait? Créant, je suis là. Ben-Mor, ok. Et vous allez lire le texte hébreu en comprenant ce qu'il y a écrit dans la traduction française. Vous croyez que c'est ça qu'il y a écrit dans ce texte? Celui qui dit qu'il comprend, qu'est-ce qu'il comprend? Shundara. Je pense que c'est clair. Alors, la réponse que les kabbalistes ont l'habitude de donner, c'est prononce exactement. C'est toi qui parles. Et si toi, tu ne comprends pas au niveau conscient où tu es, ta neshama comprend. Mais donne-lui à prononcer comme il faut. Parce que nous sommes vraiment tombés de niveau. Si nous étions au niveau de capacité, on nous appliquerait la loi. Et il y aurait un priant dans le monde, le Kohen Gadol. Les autres, on était.
Comment
veux-tu? Donc, rassurez-vous, cette prière a une valeur totale. Bien entendu, il vaut mieux monter de plus en plus haut dans la lucidité de la présence de soi à soi. Et c'est pourquoi il est préférable qu'un juif dise la prière en hébreu, même s'il ne comprend pas comme il dit, que qu'il la dise en français en faisant semblant de comprendre. De toute façon, en parlant français, il s'adresse à notre Dieu, dans tous les cas.
Comment on peut expliquer, c'est difficile de comprendre, si toi tu ne comprends pas, ton neshama comprend. Comment on peut expliquer ça?
Écoutez, c'est pas mystérieux que d'admettre qu'on a une neshama.
Non, d'accord.
Déjà j'ai une neshama, va d'ailleurs qu'elle comprend. Bien sûr qu'elle comprend.
C'est
l'hébreu. Oui, elle a appris la Mishnah. Vous savez, Mishnah et neshama, c'est les mêmes lettres.
Vous avez insisté souvent sur le fait de bien prononcer. Or, comme l'erreur est humaine, on arrive des fois à se tromper, à mal prononcer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là et quelles sont les conséquences?
Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez, en principe, la loi est que il faut bien prononcer tout le texte. Mais comme on sait que même ça, on n'est pas capable, alors c'est exigé que pour la première bracha, que pour les premières lignes du Shmoneh Esrei. dans les autres, suivant les mots, parce qu'il y a des mots qui, si on se trompe, introduisent des hérésies graves, alors il faut revenir au début de la bracha, ou bien revenir au début, ou bien c'est pas grave si l'erreur de prononciation n'est pas très grave. Mais ce qu'il faut, c'est faire attention à bien prononcer. Oui. Et il y a une Mishnah à la fin du chapitre. Hamit palel vetara. Hamit palel vetara siman ra'lo. C'est-à-dire, celui qui prie et se trompe, c'est un mauvais signe pour lui. Parce que si déjà tu pries et tu te trompes, il y a quelque chose qui tombe pas rond. Alors, Roser, et il recommande. Et c'est un signe qu'il y a quelque chose de détraqué. Si quelqu'un prend au sérieux ce qu'il entreprend de faire, et il se trompe. Et on a cité à ce propos, c'est un peu chassidique, mais c'est adopté par tous les juifs quand même, c'est Vediglo alai ahava. Il y a un verset dans Shir HaShirim qui dit Vediglo degel est son étendard, et pour moi un signe d'amour. Le fait que nous avons le signe de Dieu sur nous, c'est un signe particulier d'amour. Parce que dans le monde entier on dit Dieu, on sait très bien que ça veut dire le Dieu d'Israël. Pardon, plus fort.
C'est bien Dieu qui a créé tous les peuples. Pourquoi nuancer
Dieu? Non, ce n'est pas une nuance, c'est une différence de nature. Tous les peuples savent que lorsqu'ils parlent de Dieu, du Dieu vrai, ils parlent du Dieu d'Israël. Tous les peuples savent. Il n'y a que les Juifs qui ne savent pas. C'est ça. Il n'y a qu'un Dieu, le Dieu d'Israël. Tout le monde le sait. Alors,
pourquoi le dire?
Comment?
C'est très important pour elle.
Oui, non, mais je sais très bien. Ça renvoie à des études préalables. Et nous prenons le problème à ce moment-là. Mais je vous renvoie à ces études préalables. Attendez, laissez-moi finir. Étudiez, lisez le récit de l'histoire biblique depuis le début, jusqu'à ce que vous arriviez à Israël, et vous comprendrez que c'est ce Dieu unique qui a créé l'univers entier, qui en fin de compte est reconnu par l'univers entier comme étant celui qui s'est révélé à Israël. Pourquoi? Il faut apprendre. Il y a une réponse. Une minute, c'est pas fini. Et comme vous dites-vous, pourquoi le dire? Et pourquoi pas le dire? Alors, je reviens. Vous avez peur des goïms? Je voulais terminer là-dessus. Alors, le verset de Shir HaShirim dit « Vediglo alai ahava ». Or, les Daleg, les mêmes lettres que Degel, les Daleg, c'est enjamber une lettre sur une autre. C'est-à-dire, c'est par trop d'amour qu'on fait des fautes. Imaginez quelqu'un qui fait une déclaration d'amour et puis il se trompe. Alors, on prend ses erreurs comme des erreurs de déclaration d'amour. Vous avez compris, Marie? C'est-à-dire, n'ayez pas peur si vous êtes trompé. C'est un signe que vous voulez vraiment prier avec ferveur. Alors, priez avec moins de ferveur et ne vous trompez pas. Bien. Oui, mademoiselle Vétholique.
Oui, je dis au niveau de Arnaa, c'est-à-dire que le monde n'ayant pas une existence propre en elle-même, il ne peut être que soumis, parce qu'il était créé par sa parole.
Attention, là vous êtes dans une pente musulmane.
Non, justement, quand je vous disais que le monde ne peut être que soumis parce qu'il n'a pas une propre existence en lui-même, puisque le juif a une existence en lui-même. C'est pour ça qu'il n'est pas soumis, mais attaché.
Attends, expliquez mieux, et parlez plus fort pour tout le monde, mais je répéterai. Expliquez mieux votre question, parce qu'il y a une contradiction dans ce que vous avez dit.
En sens de soumission, le monde ne peut être, à une certaine évidence, il ne peut être que soumis parce qu'il n'a pas une propre existence.
Mais il s'agit de la soumission de l'homme.
Oui. Mais c'est-à-dire soumission dans le sens d'attachement, là.
Non, c'est soumission dans le sens de reconnaissance de la souveraineté. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ici, cette pente, elle va dans le sens de la définition musulmane de l'attitude de la prière, qui est la prière d'Ismaël. Hein?
Mais au contraire, là, elle ne doit pas aller dans cette pente-là.
Non, mais c'est justement cette pente-là qui nous est indiquée, avec la complémentarité de ce que vous avez dit, attachement et pas soumission. Mais quand même. C'est pas parce que j'étais élevé dans l'atmosphère sfarade, mais il n'y a pas de doute que ici, la prière d'Ishmaël est le modèle. C'est un modèle qui dépasse les limites, si vous voulez, mais c'est la visée de ce modèle. Je voudrais essayer de vous transmettre ça, mais il faut l'expérience. Quand on entend Ishmaël prier, on sait qu'est-ce que c'est que la prière. Seulement, la prière d'Ishmaël va trop loin dans la soumission. Mais c'est de ce genre-là qu'il faut intégrer dans l'unité des... Est-ce que c'est bien clair, ça? C'est pas un pluriel. Vous voyez, il n'y a pas de patard sous le dalet, il y a un kam. C'est pas un pluriel. Adonai, avec un chérique, Adonai, c'est le pluriel, mais Adonai avec kamel, c'est un autre genre qui n'est pas le pluriel, c'est celui qui est tous les adonimes. C'est l'unité du pluriel. Je ne sais pas comment dire, l'unité du multiple. Celui qui est tous les adonimes, il y avait une question hier ou avant-hier là, monothéisme, polythéisme, oui. Celui qui est tous ces dieux dont les païens parlent, mais dans une unité qui transcende tout cela, et considérablement. Nous avons un texte dans le Yotzer du Shabbat matin, vous allez m'aider à le répéter, qui ou le vado. Marron et Kadosh. Continuez. Oui. Vous pouvez arriver à... Laissez-nous finir. Pas fini. Il y a le problème de la machloket. Ose Khadashot, c'est Baal Milchamot. Vous avez suivi là-dessus. Non, alors voilà ce que dit ce texte. Les hommes disent qu'ils ont le Dieu de la guérison, ils ont le Dieu de la force, le Dieu de l'amour, le Dieu. C'est autant de chapelles et c'est autant de. C'est le polythéisme. Et nous disons du Créateur qui, ou le vado, lui seul, est tout cela. Hachem ou Haelokim. Mais donc c'est pas un pluriel. C'est un autre genre qui n'existe pas en français et qui est l'unité du multiple.
Un ensemble.
Si vous voulez. Un peu le problème auquel nous avons fait allusion hier, d'ailleurs. Bien. Alors je crois qu'on a... Oui. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est exact. Par exemple, la Ola, le Kalil. Mais ce qui se passe lorsque le repas est mangé, en fin de compte, le résultat est ce qui se passe lorsque le repas n'est même pas mangé, mais brûlé directement. Puisque, en fin de compte, c'est pas simplement une analogie de vocabulaire, parce qu'en hébreu, Ishé, c'est la même... Ishé, pour dire le fait de consommer le sacrifice dans le sens de consommer par le feu, mais consommer c'est une combustion, c'est le même geste, et le fait de se nourrir d'eux est par l'odeur, ishe reach nichor, et c'est pas nécessaire qu'il y ait combustion à l'intérieur du tube digestif, en fin de compte il y a nourriture par l'odeur de cette combustion. Je pense que c'est clair. Non, c'est pas clair. Attendez, je vais essayer d'éclairer. Bon. Vous voyez comme nous sommes tombés dans l'envergure anthropologique. Hein? Est-ce que cette notion-là peut vous paraître claire? Se nourrir d'une odeur? C'est ça? Alors c'est à ce niveau-là qu'est la achila. Hein? C'est la hana du réa. Écoutez, dans le problème. Mais bien sûr. Et imaginez toutes les fautes qui sont faites chaque fois qu'on vous met un nouveau parfum sur le marché.
Pourquoi?
Non, Chanel, je ne sais pas vous appeler. Mais bien sûr que le parfum fait partie du problème. Les réach chez Manechatovim. C'est clair. C'est Ishé Réach Nifor. Bien. Alors, si vous voulez, nous allons avancer la suite du texte. Nous donne un certain nombre de maasim. Comme je vois qu'il ne reste pas trop de temps, je voudrais un peu le dalek, ça, quel?
Je veux revenir à la soumission de la Hafnara de Ishmael, évidemment qui va au-delà, donc qui engendre une fatalité. c'est pas la dimension qui la différencie, peut-être encore d'autres dimensions, justement qui montrent la dimension du tikkun.
C'est-à-dire
la fatalité sans oui. pouvoir faire un tikkun.
Je voudrais élargir un peu votre notion, c'est-à-dire de la prise de responsabilité parce qu'on a un tikkun à faire. Ce qui manque, c'est la prise de responsabilité. Bien évidemment. Mais c'est toujours important de voir, et je reviens à ce qu'avait dit mademoiselle, c'est que la ligne idéale du Kovet Rosh, c'est la Achna, comme dit Rashi. Simplement, nous avons eu une nuance tout à l'heure. Rashi met l'accent sur ce qu'il faut ajouter à la Simcha. À la Simcha, il faut ajouter la Achna. C'est-à-dire qu'il faut premièrement la Hava, mais il faut ajouter Ira. Parce que la Hava sans Ira, il y a une Hava dangereuse. J'explique ça à une minute, j'ai déjà expliqué à un séminaire, mais il y a assez longtemps. C'est-à-dire, la trop grande familiarité qui vient de l'amour, mène, si elle n'est pas tempérée par le respect, mène au blasphème. C'est l'impression que j'ai quand je lis les mystiques chrétiens. C'est un vocabulaire érotique qui est insupportable à un niveau de lucidité théologique. Laissez-moi parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas, Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix ou tous ces studiotes-là, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est là-dedans? Oui, il y a Ahava, indéniablement. Mais c'est une Ahava non contrôlée. Alors ça devient blasphématoire. Est-ce que c'est bien clair? Mais il n'y a pas de doute que le geste est celui-là. Ahava, mais tempéré par Ira. Je vous donnerai une définition de la foule à ce sujet.
La même Ahava, comme l'Ahna mène à la fatalité. Même la Ahava mène aussi à la fatalité. Donc, de ne pas faire son devoir. T'es réfugié ici, on a dit, voilà.
Oui, enfin, c'est un peu nuancé ce que vous dites, mais pour rester dans le sujet, je voudrais vous expliquer comment le Rav Kook enseigne ce problème. Il dit la relation à Dieu est une relation ambivalente, je ne dis pas ambiguë ni contradictoire, où il y a à la fois perception d'une très grande proximité et d'un très grand éloignement. Dans l'analyse philosophique, c'est la notion de profondeur. Qu'est-ce que c'est qu'une réalité profonde? C'est qu'elle est ça veut dire qu'elle est à la fois très proche et très loin. C'est ça, profond. Et je voudrais vous citer quel philosophe a donné cette analyse, c'est Gabriel Marcel. Et en hébreu, ça se dit « Akadosh Baruch Hu, Karov Verachok ». Karov Verachok. Lorsque je perçois la dimension Karov, alors il y a Ahava. Et lorsque je perçois la dimension Rachok, il y a Ira. Est-ce que c'est clair? À la fois proche et loin. Mais si je ne perçois que l'un ou l'autre, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui n'est que loin, ça c'est l'islam. Un Dieu qui n'est que proche, ça c'est la chrétienté. Je schématise un peu, mais pas tellement. Mais en réalité, voilà, c'est clair. C'est un peu à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Et surtout dans les balbutiements de tentatives de réorganisation de la liturgie catholique contemporaine, et en particulier en France, n'a aucune idée des ch'touillottes qui se passent. Il y a de quoi vous rendre intégriste pour eux. Monseigneur Lefebvre. On sent un gaspillage de c'est, on dit en anglais, HM, comment on dit en français? Boucha, comment on dit en français? C'est honteux, c'est honteux. C'est ça. Vous voyez, la perception de l'abîme, ça c'est l'islam. La perception de l'immanence totale, et que ça c'est la chrétienté. Mais l'attitude juive, c'est Ahava et Ira. C'est l'un et l'autre, mais ensemble. Parce que quand c'est ou l'un ou l'autre, c'est déjà autre chose.